Voilà, on va ouvrir le débat. Je pense qu'on a le droit à combien? 5 ou 10 minutes? On est ouvert à vos questions. Je crois qu'on va peut-être commencer par là avec mais peut-être une ou deux questions, puis après laisser vraiment la parole.
Bonjour. Ben, je pense que la toute première question se pose seule, directement de la confrontation des expériences au concept de justice environnementale, voir un peu quelle est la réaction de ceux qui exécutent par rapport au concept présenté, n'est-ce pas?
Oui, non, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris de quoi il s'agit, mais je peux raconter des trucs. Hein, c'est pas... La question, c'est quoi? La réaction, oui, je l'évoquais tout à l'heure, il y a des réactions de rejet. Enfin, je ne sais pas, vous l'avez expliqué, moi j'aime bien l'idée de dire, bon, bah, finalement, il y a une injustice environnementale qui est préexistante. Peut-être qu'avant d'aller faire des paillettes sur des nouveaux quartiers écologiques dans les villes françaises, peut-être qu'on pourrait quand même déjà se soucier de la qualité environnementale de ce qui préexiste. Plus fort? D'accord. Vous avez entendu quand même. Enfin, vous avez rien raté, de toute façon, pas bien grave. Oui, donc ça, je sais pas, le contexte français, moi je le vois, on a une sorte de mauvaise conscience, parce qu'on était en retard. On a été en retard sur Internet, on a une Minitel en même temps. Dont acte, mais quand ça démarre plutôt bien. Et il y a une chose spécifique, donc là je suis en train de conduire une étude comparative entre le développement durable et sa mise en œuvre dans le secteur du bâtiment et de l'urbanisme, entre la France, la Finlande et l'Espagne. Donc entre le très bon élève, quand on dit Finlande, on a les yeux verts, le médiocre, le français, puis ceux qu'on voit comme des nuls, de toute façon plus ils sont au sud, plus ils sont nuls forcément, donc on va voir ce que font les Espagnols. C'est intéressant parce qu'en Finlande, l'approche n'est pas du tout la même. En France, il y a une appropriation très politique du sujet depuis, on va dire, 4 ans. Les élus n'en avaient rien à faire, sauf quelques-uns qui étaient dans des contextes. Alors, je ne veux pas polémiquer sur Chalon, mais Chalon-sur-Saône, j'ai dit tout à l'heure, mairie de droite, grosse opposition assez forte de gauche, très teintée vert. Donc forcément, il y avait un vrai intérêt stratégique politique à se positionner sur ce secteur pour couper sur pied de la concurrence possible du bord opposé. Donc il y a une politisation qui est quand même assez forte de l'environnement depuis un certain temps. Et aujourd'hui, aux dernières municipales, moi j'ai entendu beaucoup d'élus qui étaient des convaincus, qui n'étaient plus des opportunistes. Donc ils voulaient vraiment faire des choses et parler avec sincérité, se doter d'outils et de moyens pour agir. Donc j'imagine qu'en Suisse, tout ça a pris place il y a déjà pas mal d'années. Donc ça doit vous faire un peu rigoler. J'ai pas du tout répondu à la question, mais j'ai dit des trucs, quoi.
D'autres questions?
J'aimerais bien féliciter les deux intervenants qui ont présenté cette histoire de la justice environnementale. Je crois que vous avez trouvé exactement, avec de très bons mots, la problématique centrale sous l'angle du développement durable côté social. Donc, je l'appellerai pas forcément justice environnementale. C'est d'ailleurs une question qui se posait déjà dans les années 70 et 80. Il y avait toujours cette problématique de l'attribution de l'attention de l'État dans les différents quartiers. Et on a constaté dans le temps déjà que les quartiers aisés étaient beaucoup mieux protégés que les quartiers populaires. Donc ça, ça a une certaine suite et je pense que c'est intéressant de reprendre ce débat des années 70 et de le traduire jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me paraît très intéressant, et ça pour moi c'est une nouveauté que vous avez sortie ici et qui n'a jamais été très fortement mise en exergue, c'est que en fait la garantie de l'équité ou de la justice ou de l'égalité réside dans la politique des réseaux ou réside dans la politique de l'équipement. En fait, ces quartiers doivent être reliés à des réseaux. Et ces réseaux, déjà physiquement, relient ces quartiers au reste de la ville. Donc, vous parlez toujours de la politique pour le reste. Et je crois que ces politiques de l'équipement, d'ailleurs compréhensibles dans le cas français, que là, il y avait des oppositions ou des problèmes, comme vous dites, de négociations avec EDF, avec les eaux, avec le réseau de chauffage, etc. Je comprends bien que ça a pu avoir posé des problèmes, éventuellement aussi parce que ces réseaux défendaient un autre point de vue peut-être un peu plus axé sur l'ensemble du tissu. Sur la question de la solidarité, sur la question de la contribution de ce quartier à l'ensemble de la ville, etc. Donc le passage à travers l'analyse de la politique de l'acteur clé, à savoir des services industriels ou, plus généralement parlant, de ceux qui produisent des biens d'équipement, jusqu'à la question de la sécurité, l'école, il y a d'autres réseaux qui ne sont pas forcément appelés réseaux et dont on ne parle pas forcément, je dis école, c'est important dans quelle école ces élèves vont, à quel district scolaire ils vont appartenir. Est-ce que ça renforce cet isolement? Est-ce qu'ils auront à la fin leur propre école, ceux qui sont dans les écoquartiers, ou est-ce qu'ils sont obligés d'envoyer les élèves dans d'autres arrondissements? Donc c'est cette géographie de ces espaces fonctionnels à l'intérieur de la ville qui est, à mon avis, important. Donc travaillons peut-être davantage, moyennant les réseaux, sur les rapports entre les écoquartiers et le reste.
Pas de questions, donc.
Oui, c'est aussi par rapport à cette intervention sur la justice environnementale. Est-ce que finalement, enfin, moi j'ai bien aimé ce reversement que vous avez amené, reversement de point de vue. Quand vous dites finalement on va accepter la dispersion, on va accepter les inégalités sur le territoire, on va essayer au contraire d'améliorer la qualité des quartiers, mais est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas en train aussi de promouvoir ou d'encourager une certaine forme de gentrification dans ces quartiers ? Ou alors est-ce que vous prévoyez des mesures pour éviter ce phénomène ?
Alors, ça marche. Bon, le grand intérêt, c'est justement de ne pas penser à une petite entité, mais de penser à l'agglomération dans son entier. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que la question fondamentale, c'est de savoir finalement comment financer ou comment organiser finalement l'amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant les populations en place. Et c'est en ce sens, en fait, qu'on appelle à un arbitrage ou à une intervention forte des pouvoirs publics, puisque c'est les seuls finalement qui sont capables de contrer ces mécanismes. Sinon, c'est que le marché du logement qui va réguler finalement qui seront les détenteurs, les personnes qui pourront jouir de cette amélioration du cadre de vie. Donc, chaque fois, c'est un problème qui est absolument fondamental, c'est de savoir chaque fois, lorsqu'on améliore la qualité de l'espace, on améliore nécessairement en fait son attractivité. Et donc, l'idée, c'est de dire, seuls les pouvoirs publics sont capables de casser ce lien entre augmentation de l'attractivité et donc remplacement par des populations qui ont en fait les moyens de se payer cette amélioration. C'est pour ça qu'on dit finalement que les pouvoirs publics doivent avoir une attention pour tous les espaces de la ville et que certes les écoquartiers sont intéressants, c'est des opportunités disons, d'expérimentation, mais l'attention doit se porter sur tout le territoire. C'est un petit peu un élément de réponse, je ne sais pas
si... Si je peux dire un mot sur ce sujet. dans la présentation que j'ai faite, j'ai peut-être montré comme à la toute petite échelle d'un opérateur qui ne maîtrise que quelques dizaines de logements, il y a une volonté justement de penser qu'une une mixité soit prévue dans le concept lui-même. Alors, vraisemblablement, des solutions sont possibles, parce qu'on a fait justement à cette échelle un peu la démonstration. En même temps, c'est clairement, je dirais aussi, un problème qui se place ailleurs, dans une organisation politique et dans des choix politiques qui se font à notre niveau. Alors, je ne sais pas si on aura toujours la bonne réponse, mais en tout cas, si je prends le dernier exemple que je vais donner, donc c'est cet éco-quartier Copli Quartamis à Genève, c'est un petit quartier, ça fait un peu plus que 2 hectares. En même temps, il est réparti entre une coopérative, voire deux, ou plutôt une coopérative militante, une coopérative de promoteurs et une fondation de droit public de la ville de Genève qui a comme tâche de faire du logement social. Par contre, elle s'interroge comment intéresser les gens qui sont peut-être assez loin de ces préoccupations un peu sélectives à ce processus. Mais c'est un choix qui est fait au préalable en disant ben, on partage le territoire en espérant que la colle prenne.
Une dernière question.
Merci. Je voulais poser une question qui était plus en rapport avec la forme urbaine et l'efficacité énergétique. Est-ce qu'on n'arrive pas, c'est beaucoup plus concret, est-ce qu'on n'arrive pas à une sorte de pensée unique, est-ce qu'on n'arrive pas à une sorte de pensée unique dans la conception des quartiers en considérant que l'implantation des bâtiments doit privilégier les apports solaires? Est-ce qu'on peut espérer avoir des performances énergétiques de bonne qualité avec des formes urbaines traditionnelles type îlot ou des choses comme ça? Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience par rapport à ça, notamment par rapport à vos expériences à Lausanne?
En fait, lorsqu'on est effectivement au stade du concours, on évalue un certain nombre de projets. Ça s'est effectué en tout cas déjà 2 fois en quelques mois sur un projet à Provence, sur le P+R. Donc le concours s'est tenu en juin. Et effectivement, c'était un projet qui allait, selon les propositions des architectes, de 5 à 7 bâtiments. Et au début, moi, en regardant les projets, je me suis dit, tiens, de façon peut-être intuitive et puis un peu unilatérale, comme vous le dites, tiens, ce projet-là, il est orienté est-ouest, il va forcément être mauvais. À la fin, lorsqu'on a fait une analyse un peu transversale, comme celle que je vous ai présentée, c'est-à-dire énergie grise et besoin d'exploitation, finalement, c'est celui qui a sorti le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait que 5 bâtiments sur une parcelle qui avait une forme un peu particulière, c'est une forme en croissant. Et finalement, la valorisation des apports solaires était largement, donc était assez mauvaise finalement sur ce projet-là, était complètement compensée par une compacité des bâtiments et puis la compacité, je dirais, du projet en tant que tel dans son ensemble, avec d'autres intérêts indirects sur le taux d'imperméabilisation du sol, etc. Donc il n'y a pas vraiment de règle absolue. C'est évident que si on raisonne à l'échelle d'un bâtiment, un bâtiment orienté sud-nord sera de toute façon toujours meilleur que dans une autre orientation. Maintenant, quand on réfléchit à l'échelle du quartier, ça change complètement la donne. Et l'idée, c'est de valoriser au mieux la parcelle et trouver le meilleur compromis entre un certain nombre de données. Donc, il n'y a pas d'unilatéralisme, je dirais. C'est clair que si on veut atteindre 1000 RJP, il va falloir de toute façon un petit peu maximiser les surfaces au sud. Mais il n'y aura pas d'unilatéralisme, si vous voulez. Je suis désolé, on a été tous un peu trop bavards. Et puis, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de questions. Il y a un film, je crois, qui commence à 17h.
Qui vous attend, voilà. Un café qui vous attend à la sortie, comme ce matin. Et puis, la projection d'un film, à 17h. Bon, ce sera 17h05. Donc, je vous demanderai de faire pas trop long, parce qu'après, on va être un petit peu coincé. Donc, voilà.